Vous écoutez
RMC. RMC. 15h-18h, le meilleur du Super Moscato Show.
Adrien Rigouin, Pierre Dorian.
Salut à tous, c'est le meilleur du Super Moscato Show, tous les jours de 15h à 18h pour revivre les meilleurs moments de la saison. Salut Adrien.
Salut Pierrot, bientôt le retour, hein, dans moins d'une semaine, on y sera lundi prochain en direct,
lundi 15h.
Avec toute la bande.
Alors, au programme aujourd'hui, nous allons beaucoup parler rugby. Fabien Galthié saura-t-il se réinventer à 17h? Le foot, Cristiano Ronaldo dans une saison de Coupe du Monde. Un débat de début de saison, le PSG a-t-il manqué de respect à Donnarumma? C'était au mois d'août. Hein.
Il n'est plus là et ça va plutôt pas mal avec City Donnarumma. Il fait du Donnarumma, quoi. Il est irrégulier.
Et puis qu'est-ce qu'on a dans le journal moyen aujourd'hui, Adrien?
Première édition à 15h45, une des spécialités du journal moyen, l'immobilier et le rugby. Antoine Dupont achète des maisons dans la région de cœur de Denis Charvet. Tu connais bien cette région, Pierrot, le Pilat-sur-Mer, Arcachon, le Cap Ferré. Denis et Vincent vont analyser les achats d'Antoine Dupont. Et puis 16h45, la deuxième édition du journal moyen avec la pire blague de la saison offerte par Vincent Moscato.
J'aurais misé sur Stephen Brun.
Alors tu me mets un doute. C'était la blague sur Ify.
Ah non, c'est Stephen.
C'est Vincent Moscato. Ipipip.
Ah, c'est Vincent Moscato.
Pourra, souviens-toi. Alors, si vous avez loupé Nadir cette émission-là, cette blague sur Nadir Ify, le joueur de basket, c'est un fiasco total. C'est à 16h45 et puis 17h45. Un Kikadi complètement cramé aujourd'hui.
Alors, c'est justement par le basket qu'on va démarrer. Tony Parker, vos coachés en NBA, est-ce que vous y croyez?
La Fédération Française de Basket vous propose le DEPB.
Parker à 3 points!
Pippi Parker.
Le diplôme d'entraîneur professionnel de basket.
Notre petit Pippi Parker national se sent des ailes, pourquoi pas.
Cette formation vous permettra d'entraîner et coacher une équipe professionnelle de basket.
Il y a eu deux sportifs dans l'histoire qui ont eu deux carrières pro. Jordan, baseball et basket. Brun, basket et tennis.
Appréhendez les exigences du très haut niveau.
Tu dis ton rêve à quelqu'un et il se fout pas de toi, c'est que tu rêves pas assez grand.
Piloter et concevoir un projet de haute performance sportive.
Pivot, il était.
Ouais. Pivot.
C'était Bernard.
Pivot. Vous aurez notamment l'opportunité de vivre l'aventure en immersion.
Sur la question juste avant le truc qui partait aux États-Unis, NBA.
FFBB.com. À très bientôt.
C'est que oui, dunk au basket. Il a des super qualités athlétiques.
Ah, ça, c'est fort.
Ah, il fait des tolisso.
Moscato, il va te le régler le problème.
Alors, c'est le Super Moscato Show et on parle basket. C'est vrai qu'on est mardi, donc c'est le jour de Basket Time, on le précise, mais vous êtes bien dans le Super Moscato Show. Basket Time est en ligne, spécial Euro 2025. D'ailleurs, nous accueillons Félix Gabory, qu'on retrouve dans le podcast. Salut Félix.
Salut Pierrot, salut tout le monde.
On va parler de Tony Parker, qui veut revenir sur le terrain. L'icône du basket français rêve d'entraîner l'équipe de France et une franchise NBA. Il part de zéro. Et les places sont chères, mais pourquoi ne pas lui imaginer un destin à la Zidane? Tipeee entraîneur, est-ce que vous y croyez? Vincent Moscato règle le problème. S'il daigne participer au débat de son émission,
parce que c'est plutôt d'humeur.
Le mec a miaulé quand même, il n'y a aucun respect.
Un très bon miaou, un très très joli miaou.
Ah oui.
Alors, pour débattre avec nous, il y a le
32-16. Jean-Fred.
Félix, c'est une interview dans l'équipe la semaine dernière, hein, qui a été à l'origine de cette annonce. Quelle est l'ambition exacte de Tipeee?
Ouais, Tipeee commence visiblement à s'ennuyer, il veut se rapprocher du parquet. Voici ce qu'il a dit dans l'équipe il y a quelques jours. Je cite, j'ai envie de pivoter, de faire autre chose, j'ai envie de changer de carrière. Le terrain m'a manqué, je pense que c'est le bon timing pour moi. Cela fait 6 ans que je suis en retraite sportive et je le ressens en moi. Alors après avoir discuté avec Zidane et Thierry Henry, deux de ses copains devenus entraîneurs après leur carrière, il s'est décidé à passer son diplôme d'État cette année. Comme Vincent il y a quelques temps. Il s'est fixé un objectif, avoir ce diplôme en mai prochain pour ensuite commencer sa nouvelle carrière de coach avec à terme un poste en NBA comme rêve absolu.
Alors ça c'est la suite, l'avenir possible, mais si on se plonge un peu dans sa carrière et son après-carrière, il n'y a absolument rien d'une reconversion pour être entraîneur.
Ah non, pas vraiment, parce que jusqu'ici, on connaissait plutôt Tipeee, le businessman. Ça fait 11 ans qu'il est président et propriétaire de l'ASVEL. Il a permis au club d'intégrer la prestigieuse Euroleague et de remporter 4 titres de champion de France, même si les finances sont un peu dans le rouge en ce moment. En tant qu'entrepreneur, il a également investi dans une station de ski à Villard-de-Lans ou dans un haras de chevaux de course dans le Calvados. Bref, autant de business qu'il devra gérer de bien plus loin s'il devient entraîneur.
Alors, est-ce que déjà, première question, est-ce qu'on peut devenir entraîneur comme ça, 6 ans après sa retraite, sans y avoir vraiment pensé avant, Vincent? Ça, c'est possible comme parcours?
C'est possible qu'il n'y ait pas pensé. Il a pris d'autres trucs pour se reculer. C'est un mec qui était investi dans le jeu. C'est un meneur de jeu. Un meneur de jeu, il a gagné quatre fois le championnat américain. C'est ça, hein? La NBA, il a gagné quatre fois. C'est un mec qui s'est investi dans le jeu. C'était quand même avec le coiffeur de l'hôpital, le coach Popovic. Écoute-moi, c'était son relais sur le terrain. Donc automatiquement, c'est comme un demi-mêlée, c'est comme Pierre Mignoni. C'est des mecs qui sont dans le jeu tout le temps, qui sont passionnés. Tu peux pas être meneur de jeu si tu comprends rien. C'est pas possible. C'est impossible. Enfin, je le crois, quoi. C'est comme si tu me dis, t'es demi-ouverture ou demi-mêlée et tu comprends que dalle dans le jeu. C'est pas possible. Regarde tous les gosses qui sont entraîneurs. Un mec comme Deschamps, qui techniquement peut-être pas le meilleur, mais qui était complètement investi dans le jeu, dans la tactique, dans la réflexion. Tony Parker avait du talent. C'était pas le mec le plus physique qu'il y ait eu à ce poste. Je veux dire, il y a des mecs qui ont beaucoup plus de talent que lui. Tu vois, il y a des meneurs de jeu qui sont doués naturellement. Lui, il a travaillé et tout. Bien sûr que c'était une suite logique. Il a pris de l'expérience, il a pris du recul, il a fait quelques petites affaires, il a mené son club quatre fois champion de France, il a mené en Ligue des Champions. Écoute-moi, il passe au mauvais état. Alors après, attention. Après, parce que Tony, quand même, il est un peu raide, quoi. Tu vois, je veux dire, il joue un peu,
il est incroyable.
C'est surtout des sports collectifs, mais qui, quand même, ne le sont pas trop collectifs. Qui joue un peu. Là, il faut savoir amener les mecs, les encourager, être pédagogue, c'est autre chose. C'est pas un éducateur non plus, mais ça demande une autre patience, de mettre ton jeu, de pas être sûr de toi. Je veux te dire, il y a rien de pire d'avoir de l'assurance. Il y a rien de pire que ça. Je veux te dire, ça te met en faiblesse d'avoir trop d'assurance. Il faut être d'accord avec ce que t'as envie de faire, mais il faut faire attention. Donc ça demande une démarche intellectuelle. Où il va bosser son brevet d'État. Mais son brevet d'État, ça va lui amener un diplôme. Un diplôme, ça sert à que dalle. C'est par rapport à ce qu'il a eu, lui. C'est sur le terrain qu'il va lui amener. Et donc, il va commencer peut-être à avoir la patience de peut-être commencer, s'il veut faire de la NBA, numéro 2, numéro 3, de grimper comme a fait le Zizou. Est-ce que là, il aura cette capacité intellectuelle, cette espèce d'humilité pour le faire? Ben, c'est là, on attend de voir.
Tu crois plutôt quand même.
Moi, j'y crois. Le bagage technique de ce mec est énorme. Bien entendu. Mais après, il va falloir qu'il se façonne peut-être différemment qu'un propriétaire de club comme il était, ou qu'un mec qui a monté une station de ski là, ou je sais pas trop quoi là.
Voilà. Ou des chevaux.
Ok, Stephen.
Ouais,
tu crois que ton ancien coéquipier Tony Parker.
Ah, t'as joué avec lui?
Grand coach. C'est vrai, t'as joué avec lui?
Oui, j'ai joué. Enfin, il a surtout joué avec moi, mais.
Oui, c'est lui qui a joué. Ben oui,
c'est
ben
la
alors.
Classe, quand même.
Ben oui. Bien sûr, t'as raison.
Il m'a pas fait beaucoup de passes, hein.
Ah ouais? Ah,
non, pas trop. Après, j'étais sur le banc, lui.
Il calculait pas trop?
Non.
Même s'il avait voulu, il pouvait pas,
de toute façon. Il était pas fou au point de faire des passes sur les mecs qui sont sur le banc, quand même.
Il m'a régalé sur mes peu de passages en équipe de France. Il a été exceptionnel maintenant pour ce défi qui est quand même irréel, parce que c'est un garçon qui est sorti du basket en lui-même, en tant qu'acteur majeur du basket. Je te parle de technique et tactique.
Il est bon tactiquement, sens tactique.
Bon, je pense qu'il est bon.
Il a une vision du basket.
C'est un mec. Il a été meneur de jeu des Spurs. C'est meneur de jeu.
C'est-à-dire que
quand t'es meneur de jeu, tu décides des systèmes en fonction. Tu regardes les match-ups, quel système
quoi. Entraîneur de jeu.
Tout ça, mais t'as un cerveau hors norme quand t'es meneur de jeu d'une équipe, surtout.
C'est comme talonneur.
Voilà, exactement.
Mais serveur hors norme pour le milieu du basket aussi.
Bien sûr, mais qui reste quand même supérieur au milieu du rugby. Mais tout ça pour vous dire que le diplôme, il le fait parce qu'il a envie aussi d'avoir une session pendant un an et d'apprendre les bases du métier. D'ailleurs, il va côtoyer Vincent Collet, Popovic pour apprendre tout ça, parce que c'est pas que de la tactique en travers de basket aujourd'hui. Il y a des gestions d'ego, des gestions de vestiaire, des temps de jeu à répartir. Il y a beaucoup de psychologie à faire, mais il y a pas besoin de diplôme à NBA pour coacher. Il y a beaucoup de garçons qui ont terminé leur carrière. Je pense à des Steve Nash pour les joueurs plus connus qui sont passés coach alors qu'ils ont jamais été assistants avant. Il a cette renommée aux États-Unis quand t'es quatre fois champion NBA, mais encore plus quand t'es Hall of Famer, parce que Tony Parker est rentré Hall of Fame du basket américain. Il a cette aura et surtout la disposition aujourd'hui des bancs NBA. T'as pas mal de meneurs de jeu qui sont entraîneurs qui ont été des joueur moins fort que Tony Parker, mais il y a une structure en termes d'assistants. Ils ont une armée mexicaine autour. T'as des assistants qui sont parfois plus compétents que les head coach. Ils sont épaulés comme jamais. Il a cette famille, les Spurs, qui sont souvent très ouverts à garder des mecs qui ont passé dans cette franchise-là, à reprendre des mecs qui sont passés dans cette franchise-là, et pourquoi pas.
Et donc, tu penses qu'aujourd'hui, une franchise pourrait offrir une possibilité à Tipeee comme Steve Nash ou Jason Kidd?
Je pense.
Numéro 1
d'entrée. Ouais, pourquoi pas. Steve Nash est passé numéro 1 d'entrée. Il y a des mecs, Jason Kidd est passé numéro 1.
Sur ce que dit Vincent, sur le côté je vais pas dire humain, ça ne veut rien dire, mais le côté.
Je disais dans Basket Time ce matin, que vous pouvez écouter en podcast, il a côtoyé peut-être ce qui se fait de plus dur. Greg Popovich a été parfois immonde avec Tony Parker. Il l'a fait chialer, il a été très dur. Mais au-delà de ça, en dehors du terrain, il y avait ce côté humain. Tipeee peut être très dur. Dans la vie, je l'ai vu en parler des fois, très dur. Il a mal parlé à Pierrot d'ailleurs, j'en reparlerai.
Ça m'a endurci.
Mais rappelez-vous, il faut avoir ce détachement de quand lui était joueur, il faut savoir accepter que dans ton effectif, tu as des joueurs qui sont moins forts que toi. Et capable d'accepter que ces mecs-là fassent des erreurs. Ce que Thierry Henry a eu du mal à Monaco et ensuite il a progressé là-dessus.
C'est un peu le même profil, non ?
Oui, un petit peu, mais parfois comprendre que ces mecs-là sont moins forts que toi et avoir cette tolérance-là. Mais il faut être capable de gérer des égos. Et c'est pour moi la partie tactique, la partie basket, j'ai pas de doute là-dessus. Le plus compliqué en NBA ou même en Europe, c'est la gestion des égos, la gestion des temps de jeu, la gestion du vestiaire.
La politique.
C'est ça qui est dur. Oui, aussi.
Et la politique. Aussi. Attention, faut bien manœuvrer sa barque.
Tipeee entraîneur, est-ce que vous y croyez le 32-16 on vous a attends, Eric, ton avis.
Écoute, moi, le seul problème, bien sûr, qui peut être entraîneur, et je vais pas répéter tout ce que mes copains ont dit, il n'y a pas de souci. Sauf que, puisque quelqu'un parlait de Didier Deschamps, quelqu'un parlait de Steve Nash, c'est Steve qui
avait sa parole. Alors après, si tu tiens vraiment, on peut mettre des sons de Didier Deschamps sur les illustrations de Tony Parker maintenant.
C'est Vincent qui a parlé de Dédé. Sauf que ces mecs-là, ils ont enchaîné après leur carrière. Ils ont enchaîné pendant après leur carrière, soit ils ont passé les diplômes, soit ils ont entraîné de suite, soit ils se sont mis.
Sauf qu'il
se met de suite dans le circuit du l'école de management là qu'il y a là où
les Limoges ça allait derrière
et après il a passé ses diplômes d'entraîneur, après il est devenu entraîneur de la réserve au Real, après adjoint, après ou l'inverse, je sais plus dans quel sens il a fait ça. En tout cas il était dedans. Là moi ce qui me gêne dans cette histoire-là, c'est que normalement quand tu veux devenir entraîneur, et bien sûr qu'il peut être entraîneur, et bien sûr que n'importe quel joueur, parce que tu dis il était meneur de jeu, il était plus...
Il y a des talonneurs
qui sont devenus de très grands entraîneurs.
Mais parce que dans le basket, Eric, il y a très peu, il y a toujours des exceptions de pivots qui ont été des grands entraîneurs. En général, c'est plus des joueurs extérieurs.
Ok. Bon, en tout cas, sauf que pour moi, quand tu t'es trop longtemps arrêté et que tu n'as pas montré un intérêt particulier pour ce métier-là, est-ce que tu reviens pour les bonnes raisons? C'est ça que je me pose comme question. Est-ce que c'est vraiment de la passion? Est-ce que c'est vraiment est-ce que c'est vraiment ce métier d'entraîneur qui est en lui depuis toujours alors qu'il nous l'a jamais montré? Tu vois, moi c'est ça, c'est le seul truc. C'est pas pour les bonnes raisons, tu as moins de chances de réussir. C'est tout ce que je Tony Parker, il peut être un grand entraîneur, bien sûr.
Quand il était dans son club, est-ce que tu penses qu'il n'était pas au contact des joueurs en tant que président? Est-ce qu'il n'était pas vraiment en dehors du basket? Est-ce qu'il était quand même sur le terrain? On l'a souvent vu ça, des mecs quand même qui prenaient des rôles comme dirigeant. Il faisait mille trucs, il était près du terrain.
Mille trucs, dont des trucs en dehors totalement du basket.
Parce que là, ça veut dire que être entraîneur, Vincent, c'est 24h sur 24, 7 jours sur 7.
C'est pire que jouer quasiment toute l'année.
T'arrives à 6h du matin, tu pars le soir à 8h.
Ça veut dire qu'il fait une croix sur beaucoup de choses.
Ouais, mais ça lui manque ça, peut-être.
Oui, peut-être.
La routine qu'il a vue pendant 25 ans de sa carrière, peut-être que là, il se rend compte que ça lui manque.
C'est vrai que le seul hic,
le vestiaire,
le mec... Le seul hic, c'est que on comprend pas trop qu'il n'ait pas fait ça d'entrée de jeu, quoi. Qu'il n'ait pas passé ses diplômes. C'est parce que souvent, comme tu dis, les mecs qui veulent être entraînés, ils sont pris là-dedans dans la tronche.
Ils fonctionnent comme ça aussi, ils donnent un but, ils font.
Président d'Asvel très tôt, lorsqu'il était encore joueur, en fait. C'est pour ça que quand il prend sa retraite, il se consacre à temps plein avec la présidence.
Oui, non. Puis après, il faut savoir faire ce que tu fais, parce qu'après, tu fais des investissements, c'est bien beau d'arriver avec de l'oseille. Quand t'as de l'oseille, il faut bien savoir un truc dans le milieu des affaires, c'est que les autres veulent te la prendre. Et toi,
toi, t'as pas souvent les tenants et les aboutissants. Et comme tu sors avec un ego du sport surdimensionné, c'est là où tu fais les conneries avec l'oseille. Et attention, si peut-être qu'il a besoin de se refaire.
Un magasin de vêtements à vue de l'opéra, par exemple, c'est pas forcément une bonne idée, par exemple. Vincent, il a envie d'en découdre aujourd'hui, donc j'y vais là. Des fois, il faut le laisser tranquille.
Non, mais c'est vrai. Mais tu as raison. Écoute-moi, Pierrot. Pierrot, il faut savoir faire ce que tu sais faire. Et c'est vrai que des fois, t'as tendance, les mecs, ils te flattent comme t'es un sportif, une vedette, et tout. Ils te disent, bah, investis là. Alors nous, à notre niveau, c'est un PMU, un bar, c'est pas les affaires que fait Tony Parker. Mais à la sortie.
Denis, il a investi dans les drones.
Oui.
Super sub, Vincent, c'est pas ce que ça veut dire.
Mais je savais pas ce que ça voulait dire.
Alors, on reviendra sur cette séquence plus tard. Pour l'instant, on reste sur Tipeee.
Il a compris super tub.
Avec Seb.
Alors, qu'est-ce qu'il dit, Seb?
La seule chose qui m'a étonné, c'est qu'il n'est pas fait plus tôt. Parce que je trouve que c'était, de par son parcours et la personne qu'on a suivie à travers les médias, c'était vraiment le cheminement qui allait aboutir à ça. Moi, ça ne m'a pas du tout surpris. Et c'est un costume qui va bien lui aller, je trouve. Et cette petite escapade de 6 ans, homme d'affaires, président de l'ASVEL et tout, ça va au contraire peut-être même lui servir pour ce côté politique qu'il va devoir gérer en tant que coach. Et tu t'en étonnes pas du tout. Voilà.
Donc tu n'as aucun doute. Après, l'aspect qu'a évoqué tout à l'heure Steve, sur sa dureté parfois avec ses coéquipiers, on la connaît, donc je pense qu'il sera un coach de ce type-là.
Il faut savoir le gérer quand même parce que tu
es toujours à la limite du point de non-retour. C'est-à-dire quand tu es trop dur tout le temps, il y en a des coachs Vahid Halilhodžić par exemple, parfois c'était trop, même si c'est un mec qui peut être très entraînant, qui est un vrai chef. Il a fatigué beaucoup de vestiaires, c'est l'exemple qui vient à l'esprit, mais il y en a plein d'autres, des coachs comme ça. Ça va être un vrai effort pour lui parce qu'il est intransigeant. Je pense que Tony Parker est une personne qui, dans son boulot, ne supporte pas la médiocrité. Mais là, quand tu es avec quelqu'un d'autre dont les capacités ne sont pas les tiennes,
il faut avoir un peu de tolérance.
Il faut avoir cette psychologie-là.
Mais ça, Pierrot, Zizou lui a dit au téléphone.
Titi
aussi.
Titi aussi.
C'est bien. Est-ce que c'est vraiment intéressant, vous pensez, quand il s'appelle ces gens-là? De quoi il parle?
Moi, je préfère pas savoir, jamais en
entendre rien. Il parle comme nous.
Qu'est-ce que tu crois, lui? Il parle comme nous.
Non, mais il donne quoi comme conseil, Zizou? Qu'est-ce qu'il peut nous donner comme conseil à Tipeee?
Ça fascine Adrien.
Ça me fascine, ouais. Parce que je suis.
Est-ce qu'il paraît Denis Médic? Il me dit qu'il a appelé Guinoves aussi pour avoir des conseils.
On va se fâcher avec tout le monde cette année.
Tu me diras, il a du temps, Guinoves, pour répondre.
Denis aussi, il a
Ah ben Denis, le soir, il est tranquille. S'il veut appeler Denis, il est libre.
Ça t'inquiète pas, cet aspect-là, cette personnalité un peu dure?
Non, pas du tout. Et il en faut, il faut être comme ça. Parce que, avec des joueurs, il faut être comme ça. Mais je pense qu'il va très bien, il va très bien gérer la chèvre et le chou. Autant il va être dur quand il le faudra.
Jamais compris cette expression.
Il va être dur quand il le faudra et il va être humain dans les moments.
Le bâton et la carotte, quoi.
Autant il y a certains joueurs que je vois pas du tout entraîneurs et qui le disent eux-mêmes, ne seront jamais entraîneurs parce qu'ils seront trop durs avec les joueurs. Mais lui, il aura ce truc d'être sur la.
Tu le connais, Tony Parker?
Je le connais pas, mais je l'ai
suivi. Alors.
En plus, il va arriver avec le bagage qu'il a, les joueurs, forcément, ils vont l'écouter. Non, il va très bien.
Attention, je ne sais rien du tout d'avoir réduit là.
Il n'en veut pas, Vincent, il est gentil.
Je plaisante.
Ce
que je veux te dire.
Je
sais pas si vous vous rappelez de Zidane, sa première séance d'entraînement quand il arrive dans le vestiaire avec le Real Madrid, tout le monde se lève.
Je crois
que Tipeee, quand il débarque dans le vestiaire NBA, tout le monde va se lever. Bonjour, monsieur Tipeee Parker.
Possible, hein.
Mais attention,
si c'est au sport.
Ma foi.
Après, Zidane a été plus fort en foot que Tipeee en basket.
Zidane était plus fort au foot que Tipeee en basket.
Zidane a été meilleur joueur du monde. Tipeee n'a jamais été le meilleur joueur du monde.
Oui, mais quand même, l'autre, c'est quand même le pire dans les émissions à NBA, c'est une légende.
Oui, c'est la même icône pour le basket que Zizou l'est pour le foot.
Bien sûr.
Mais dans leur sport, Zidane est allé encore plus haut.
Bah oui, Eric pourrait se lever maintenant pour dire bonjour à Tipeee.
De quoi? Non, oui. Le problème, il faut qu'on le lève quand même, la canne commence ça rentre.
Le super Moscato Show, on continue avec dans un instant la Formule 1. À tout de suite.
RMC jusqu'à 18h.
Le meilleur du super Moscato Show. RMC jusqu'à 18h. Le meilleur du super Moscato Show.
Adrien Aygouin. Pierre Dorian.
Le super Moscato Show dans une demi-heure. On va parler du Paris Saint-Germain qui a choisi de se séparer de Gianluigi Donnarumma pour le meilleur ou pour le pire.
Formule 1, énorme débat. Lando Norris est devenu champion du monde pour la première fois de sa vie. Et ça avait fait débat, Pierrot, puisqu'il y a eu ce remontada incroyable.
C'est un champion du monde un peu contesté parce que c'est pas le plus flamboyant. C'est pas le champion du monde du panache. On en a débattu le 8 décembre, juste après son titre.
Vice-champion du monde. Norris s'affirme la saison dernière comme le principal rival de Max Verstappen et Red Bull.
Où ça nous impressionne à quelle vitesse ça nous avance.
Mais c'est cette saison.
On va intervenir son frère Chuck, je pense.
Qu'il devient le personnage principal.
Protagoniste, j'aime bien ça. Ouais. On devrait le dire en français parce que ça veut dire ce que ça veut dire.
Un rêve devenu réalité à Monaco.
Bon déplacement en train supporté.
Puis un deuxième sur ses terres natales.
At Kingstud, Wawa Hut.
Cette saison hors norme lui a apporté sommets inoubliables.
Ça suffit pas.
Alors que son frère Chuck, ça suffit pas. Son frère intervenir.
Mais c'est pas être.
Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule.
Et inquiétant trop d'air.
T'as deux roues et ça t'empêche pas de rouler même quand tu sois crevé.
Devenir 6 ans après ses débuts, champion du monde de Formule 1.
Donc la morale de l'histoire,
c'est pas la peine de partir en avance. Hein. Faut arriver. Hein.
RMC, le gros débat.
C'est bon,
super
c'est bon. La
fontaine, on a qu'à bien se tenir.
Allez, c'est la Formule 1. On accueille notre expert Jean-Luc Roy.
Comment il va, Jean-Luc?
Eh ben, il va très très bien, mon Vincent. Salut à tous.
Ah, le roi des pronostiqueurs, il est là.
Lando Norris, donc, a conservé 2 petits points d'avance sur Max Verstappen. Il est le 35e champion du monde de Formule 1. Pas le plus glamour, ni le plus impressionnant. Champion sur le fil et dans une position défensive sur les 2 derniers Grands Prix. Ce qui est peut-être la raison de cette image qui fait pas l'unanimité. Lando Norris, est-il un beau champion du monde de F1 pour vous? 32-16 pour débattre. On va d'abord écouter sa réaction. Lando Norris, champion du monde.
C'est une saison pleine de hauts et de bas. Dans les derniers tours, beaucoup de choses passent dans votre esprit, beaucoup de souvenirs. C'est une longue aventure avec McLaren. C'est l'occasion de remercier chacun d'entre eux, chaque sacrifice fait, chaque mécanicien, chaque ingénieur, chaque personne qui a passé du temps à m'aider et me soutenir. C'est ce qui me rend le plus heureux. Ce n'est pas seulement ce titre de champion du monde, mais savoir que j'ai rendu beaucoup de personnes heureuses, c'est vraiment le meilleur sentiment du monde.
Knowing that I made a lot of other people happy, that's really the best feeling in the world.
Voilà, au micro du diffuseur télé en France, Canal Plus, Vincent, est-ce que tu trouves que c'est un beau champion du monde, Lando Norris?
C'est un beau champion, tous les champions, je te le disais, tous les champions du monde sont plutôt pas mal. Mais là, ça a été un chemin de croix. L'explosion a dû être totale. Parce que jusqu'à la fin, ils ont eu une pression terrible. Ça a été une embûche avec un mec comme Verstappen, qui est 4 fois champion du monde, et qui revenait, même nos meilleurs spécialistes, nos experts, comme Jean-Luc, pensaient que peut-être ça allait être lui qui allait être champion du monde. Ça n'est fallu de très peu. Jusqu'au dernier moment, Piastri, quand même, était devant, avec Ocul, avec quand même, Leclerc. Et donc, Leclerc qui était là, s'il lui passe devant, on sait pas si Piastri, je te le poserai cette question quand même, il faudra que tu me répondes. Est-ce mais que oui, Piastri, j'ai pas l'impression que Piastri se serait sorti, je sais pas. Bah, peut-être, mais quand même, il est arrivé vaillant comme une épée, il a pris cette seconde place jusqu'au dernier moment. Ça a dû être un soulagement, une espèce de, je sais pas, de jouissance extraordinaire, quoi, à la fin, de gagner comme ça, parce que jusqu'au dernier moment, il a été sur le fil. Bien sûr que c'est un beau champion, mais comme tous les champions, moi j'aime bien Verstappen quand il est champion, je m'en saucissonne, j'adore Verstappen. Quand il aurait fait une 4e ou une 5e fois, ça aurait été extraordinaire parce qu'on adore aussi les mecs qui ont des règnes prolongés. C'est aussi ça la beauté du sport, que ce soit en boxe, au rugby, au football ou en Formule 1. D'autant plus en Formule 1, les mecs, quand même, entre Schumacher, Prost, les mecs font souvent des 3, des 4 fois. Ça arrive quand même assez souvent. Prost, on s'en rappelle, c'est 5 fois ou 4 fois. Donc on aime ça aussi parce que l'un grand champion qui écrase tout le monde, c'est quand même aussi jouissif. Donc bravo, c'est un beau champion. mais pas plus beau que les autres, loin de là. Pour moi, même Verstappen, il aurait été encore plus beau champion s'il avait réalisé ce coup-là. Par contre, s'il avait été champion, Verstappen, ça aurait été le plus grand champion du monde. Hein.
Mm-hmm. Donc, c'est un beau champion, mais on n'en fait pas des caisses.
Voilà. C'est un beau champion, voilà. Okay. Puis, voilà.
Jean-Luc Roy.
Oui. Pour moi,
alors, est-ce que c'est un beau champion du monde de F1 ?
Alors, ben, je vais reprendre, bien sûr, l'un des arguments de Vincent, qui est évident. On respecte toujours un champion. De toute façon, c'est lui qui a conservé 2 points d'avance sur Verstappen, même si, et on l'a assez souligné, Verstappen est de loin le pilote le plus rapide, le plus complet. Ben, d'ailleurs, il a décroché 8 pole positions, il a remporté 8 victoires, dont 6 victoires dans les 9 derniers Grands Prix. C'est vous dire qu'à partir du moment où sa monoplace a été au point, oui, il a été irrésistible. Et puis, on rappelle qu'il avait 104 points de retard sur le leader à une époque, au moment de la Hollande, qui était Piastri, d'ailleurs, le leader. Et là, il termine avec 2 points de retard sur le champion du monde. C'est vous dire, c'est une remontée comme on n'a jamais vu dans le cadre du championnat du monde. Alors, ceci posé, c'est un gentil garçon, et c'est pas péjoratif, hein, vraiment, dans ce que je dis. Norris, il a remercié tout le monde, il a oublié personne. Pas là, mais il avait même parlé de sa grand-mère, de ses parents, de ses sœurs, de son frère, de tout le monde. Non, c'est un gentil garçon. Moi, je le compare à Jenson Button. Vous vous rappelez de Button,
oui,
qui a été champion du monde en 2009 avec la Brown à l'époque, parce que là aussi, Ross Brown avait eu une idée géniale avec un diffuseur à l'arrière. Enfin bref, il avait pris de l'avance sur la saison. Et il est champion du monde, où je le compare à David Coulthard, bon, qui était écossais mais qui est britannique, qui lui n'a pas été champion du monde mais a remporté de mémoire 12 Grands Prix. Ce sont des types clean, sont des types gentils, vous entendrez jamais personne dire du mal d'eux. Et Norris avait dit qu'il voulait remporter le titre de champion en restant fidèle à ses principes, c'est-à-dire pas de coups tordus, pas de coups de roue à droite à gauche, ouais, pas de critiques acerbes, pas de...
Pas de coups de roue, c'est dommage. Dans deux ans, on l'a oublié complètement.
Un petit coup de roue de temps en temps à droite à gauche, ça fait pas de mal, non?
Ouais, bien sûr. Bien sûr.
Vous êtes des voyous.
Eric, c'est un beau champion du monde.
Mais bien sûr. J'espérais. Alors non, je vais pas dire. J'espérais que nous, on ferait pas ce débat-là, mais c'est intéressant de le faire malgré tout, parce qu'on peut remettre des choses au point.
L'église au milieu du village.
Comment on pourrait dire nous humbles mortels, sportifs du dimanche aujourd'hui.
On a le permis quand même.
Oui, mais justement, j'ai vu conduire certaines d'entre vous. Comment on pourrait dire nous? C'est pareil pour le MotoGP, c'est pareil pour le rallye. Hein. Ces mecs-là sont faits. C'est pas des champions comme les autres. Voilà, monter à 330 dans une ligne droite où il faut doubler à droite à gauche et il y a juste la place, faire ce que font les mecs de MotoGP, les rallyes, n'en parle pas. Mais
ça me fait aucune émotion quand je suis TGV.
Tu demanderas à Jean-Luc ce que ça fait. Toi, j'ai monté avec toi sur l'autoroute pour faire Paris Le Mans. J'ai des émotions, je te dis. Putain, l'autoroute 3 voies, on prenait les 3 voies avec la voiture, j'avais jamais vu ça de ma vie. Donc, il faut surtout pas. Et ce qui est terrible, c'est ce que vient de nous expliquer Jean-Luc, c'est-à-dire que bientôt, pour être apprécié, voire être considéré, il faut être un gros con dans la vie. Tu vois, c'est-à-dire en plus d'être un champion, il faut. C'est pas le cas de Verstappen, attention, hein, mais il a son caractère. Verstappen.
On n'est pas sur son cas quand même. Hein.
Non, mais ce que je veux te dire, c'est que Jean-Luc nous a expliqué que Lando Norris, c'est un gentil garçon, poli avec la dame.
Mais
j'ai pas dit de caractère, je parle pas. Ne t'inquiète pas, le petit Norris, il en a du caractère. Ce qu'il a fait hier, il en a du caractère. Parce que si on nous fait croire que, bien sûr qu'il y a le mental en F1 joue énormément, et il y en a certains qui en ont plus que d'autres. Mais ces mecs-là, toute leur carrière, que ce soit de quand ils sont à karting ou dans les autres catégories, je peux te dire qu'il n'y a pas beaucoup d'élus. Donc si tu n'as pas. Moi, quand on me dit, oh, le pire, il n'a pas de mental. Eh ben, allez-y, faire ce qu'ils ont fait. Comme Verstappen ou certains, c'est du métal froid. Il n'y a pas de souci. Ils ont ça en plus. Mais voilà. Donc, respectons, ce garçon. Et surtout, je vais te dire, moi, je veux les remercier parce qu'on a vécu une saison extraordinaire. Hier, pratiquement 2 millions de téléspectateurs.
Hier, moi, je me suis régalé. 2 millions 2 à la fin.
Pointe à 2 millions 2.
Dommage qu'il se passe pas grand chose.
plaisir quand même.
Record, oui, mais ça fait rien. Ouais, mais il y a la tension. Il peut tout se passer.
Record depuis 13 ans pour la Formule 1.
Donc, si vous voulez, ce soit raté au Grand Prix d'avant, parce que ça nous aurait donné un Grand Prix fabuleux.
Oui, mais ça fait rien. Il y a du suspense. C'est il faut pas croire. Il faut aller se le chercher. Et puis concernant la saison. Moi, je veux bien, hein, mais lui, il a gagné, si je me souviens bien, il doit gagner le premier Grand Prix. Alors, je l'ai sous les yeux, tiens, je vais.
Oui, reprendre. En Australie.
Il gagne,
oui, oui.
Il gagne le premier Grand Prix.
Après, c'est
il gagne le huitième, il gagne le huitième, il gagne le huitième Grand Prix. Il gagne le onzième, le douzième, le quatorzième Grand Prix et deux, 2021. Si on parle, si, parce que Piastri, il s'est vautré à la fin et Verstappen, et en début de saison, il a vite été loin. Le mec, ça a été le plus régulier de la saison. Donc, à un moment donné, le mec qui est le plus régulier, qui va vite tout le temps, et qui a une bonne voiture, eh ben, il est champion du monde. Et on dit bravo, monsieur, et on baisse le chapeau, et on espère que l'année prochaine, il sera performant.
On baisse la casquette, non, on lève le chapeau.
On baisse le chapeau. Quand tu le prends et que tu le baisses comme ça, claque, là.
Ah ouais, d'accord.
Non, tu confonds le pantalon.
Lando Norris, c'est une
approche du monde.
Et on lève la blouse.
Écoute, moi, je vais pas, comme Eric et Vincent, je vais forcément dire que c'est un beau champion, parce qu'au bout de 24 Grands Prix, surtout la concurrence en fait, quand tu dois te battre contre Verstappen, qui est peut-être un des meilleurs pilotes de l'histoire de la Formule 1 et qui est chaud bouillant sur la fin de saison, quand tu dois te battre contre ton propre coéquipier qui est peut-être meilleur que toi sur le début de saison, il y a une concurrence énorme. Pierrot, tu me déçois un petit peu quand tu dis que Lando Norris a couru à l'économie sur les deux derniers Grands Prix.
Non, il est en position défensive, ce qui est objectif.
Oui, mais la position défensive, eh ben oui, la position défensive qu'il a, ça fait partie.
Il se l'est mangé, il se l'est donné.
À Doha, il court à l'économie, mais son écurie fait une fève monumentale en les arrêtant pas, donc il se dépatouille comme il peut pour sauver les points qu'il a à prendre, Pierrot. Hier, dès le départ, ça fait 10 ans que celui qui a la pole à Abu Dhabi, il gagne le Grand Prix. Quand il verse à peine au départ, il est premier, ils comprennent direct qu'ils gagneront pas la course. Il faut quand même se coller une cinquantaine de tours où t'es troisième et que t'as la pression derrière pour pas te planter parce que si tu dégringoles d'une place, t'es mort. C'est courir à l'économie, mais avec une énorme pression quand même, et gérer cette pression-là quand même.
Mais si tu veux, tout le monde respecte un champion du monde, mais après, on peut qualifier, commenter, apprécier plus ou moins.
Bien sûr.
Ce qui est terrible, mais c'est pas que j'apprécie pas, je m'en fiche, il est super, bravo à lui. Et l'an prochain, il sera peut-être encore champion et on dira encore bravo, c'est pas la question. C'est pas un très beau titre parce que, malheureusement pour lui, la fin de saison te donne l'impression que le champion du monde, c'est Verstappen. Il les a massacrés et ça se joue à deux points. Sa voiture était pas prête en début de saison et lui, je suis désolé, et Lando Norris, il a subi la fin de saison. Il mérite quand même, il y a pas de problème.
C'est
pour ça qu'il mérite.
Sauf que
il bénéficie d'un coup de chance monumental à l'avant-dernier Grand Prix. Il est trapinette complet et c'est pas du tout dû à sa qualité. Il a un coup de chance qui donne une situation de course qui lui est extrêmement favorable comparativement à ce que ça aurait été si Antonelli s'était pas raté. Ça aurait été un tout autre Grand Prix.
Mais tu peux pas dire ça. Il doit être champion du monde de 4 Grands Prix avant.
Malheureusement pour lui.
S'il n'y a pas le problème de
mais je vais faire comme Stephen. Et malheureusement pour lui, encore une fois, il est dominé au départ là où tout se joue. Donc c'est une impression qui fait que c'est un champion du monde un peu fébrilote, comme dirait Vincent.
Mais tu dis n'importe quoi. Tu dis n'importe quoi, Pierrot, parce que s'il n'y a pas le faux Plagates là.
Et oui, il y a le faux Plagates. Et tous les pilotes ont vécu ça dans leur carrière.
Et s'il n'y a pas la connerie de truc,
et si la réponse est prête à prendre premier Grand Prix, c'est plié avant.
Tu dis n'importe quoi, c'est plié avant.
Tu peux pas prendre l'exemple du fond plat quand même.
L'erreur d'Antonelli, c'est parce que c'est Lando Norris qui met la pression à Antonelli.
Ça, rien. Personne ne le sait, ça. Mais il y a même des gens qui ont pensé qu'il avait fait exprès, donc tu peux pas savoir.
Oui, les intelligents encore.
Écoute-moi. C'est chaud. C'est un peu le Bayrou de la Formule 1.
Qui est le Bayrou de la Formule 1. On peut avoir déjà. Voilà, il aura été premier ministre.
Non, s'il s'est filé, tu peux pas y reprocher. S'il s'est filé,
Par contre,
s'il est
champion l'année prochaine,
Jean-Luc, que je te reposerai la question. Leclerc arrive à le prendre, est-ce que Piastri se garde?
Se couche.
Jean-Luc, bon c'est pas l'impression. Moi, j'ai ce sentiment, c'est non. C'est non.
Et oui, pour une raison simple, c'est que
Jean-Luc.
Ouais.
Vas-y, réponds à la question de Vincent.
Oui, parce que Piastri, il est deuxième à ce moment-là. Oui. Et là aussi, dans la stratégie qui est élaborée par McLaren, pour une fois, j'ose le dire, une stratégie maligne, il l'applique très bien, avec une monte pneumatique en pneu dur, hein, vous vous rappelez, pour Piastri. Oui. Donc, il passe devant dans le courant du premier tour, au virage 9, à l'extérieur. Ça se passe très bien, c'est clean. D'ailleurs, Norris cherche pas à résister, hein. Il le passe. Et Piastri, il sait aussi qu'en collant à Verstappen, il reste à 1,5 seconde, 2 secondes. Il met la pression jusqu'au bout à Verstappen. Alors, évidemment, il commet pas d'erreur, mais bon, on peut toujours, en tout cas, il l'oblige à taper dans ses pneus, il l'oblige à taper dans sa mécanique, il maintient la pression. Alors que Norris, effectivement, assure. Alors, si Leclerc passe, voilà. Ça veut dire que là, il faudrait que Piastri laisse passer Leclerc et laisse passer Norris. Et là, j'y crois pas. Enfin, personnellement.
C'est ce que je voulais te demander. Attends, oui. Parce qu'à un moment donné, quand même, Piastri, quand je le sens qu'il double et tout, je dis, il joue sa gueule. Il joue que sa bille. C'est, il y a que lui qui colle.
C'est normal qu'il joue.
Non, mais. J'ai l'impression, mais c'est ce qui m'a posé la question. Toi, tu me dis, Eric, t'es persuadé qu'il aurait mis le clignon.
T'es pas sûr.
Moi, je suis pas sûr.
Zach Brown a quand même dit que le scénario de la course ferait prendre des décisions. Vous allez me dire
en cours de course.
Si Verstappen est 1, Piastri est 2, et que.
Que Leclerc passe devant,
que Norris est 4.
C'est-à-dire que Piastri. Non, ouais, Leclerc 3.
Si il passe 4.
Et Norris 4. Ouais. Piastri, il peut pas être champion du monde. Donc vous allez me dire que Zach Brown, il va accepter.
Non, mais c'est lui. Piastri aurait peut-être
dit non. Enfin, il se serait rebellé.
Zach Brown, si je lui dis mon grand, tu laisses passer et qu'il se couche pas.
Pas sûr.
T'en es pas sûr.
Voilà
ce que dit Jean-Luc.
Dis-moi, j'ai un problème de radio. J'entends pas.
Oui. Vous pouvez me jouer.
Mais les gars, quand même.
Sur le portable.
Mais les gars, quand même, parce que là, on est dans la. Si on regarde un petit peu les dix derniers titres de champion du monde, il y en a 4 ou 5 pour Hamilton. 4 Hamilton, 4 Verstappen. Et putain, mais c'est une bouffée d'oxygène. La pire chose qui soit dans la formule sur les 10 dernières années, c'est quand Rosberg est champion du monde et qu'il s'arrête. Ça a été la catastrophe de la Formule 1, ça a été. C'est-à-dire que tout le monde attendait l'année d'après de Rosberg. Et derrière Hamilton, il a tout gagné. Et heureusement qu'on a des mecs comme ça et qu'on a une écurie. Et ça nous donne ce championnat-là.
Conclusion de Vincent Moscato.
Donc vous préférez des mecs qui empilent les titres et après je connais Vincent Moscato. Et après, quand le mec empile les titres, il fait ce qu'il a fait sur Roger. Il dit oui, mais il n'y a personne. Donc c'est nul ce qu'il a fait. Il a gagné 9 fois, mais il n'y a personne.
Arrête de répondre à ma place.
Non, mais déconnez pas. Peu, les gars.
Moi, je te dis qu'un mec qui a pile le titre, c'est un règne. Et les règnes, pour
mais
moi,
non,
c'est romanesque.
C'est pour moi, c'est magnifique. De la concurrence.
Eh ben, non, mais regarde le titre de Schumacher.
Non, c'est de la dôme ce qu'il a fait.
Le titre où Schumacher, fou, je sais plus qui c'est d'ailleurs.
Si vous préférez Bayrou à De Gaulle,
dans le fossé dès le départ pour s'assurer la victoire, c'est pas un très beau titre, par exemple. C'est pas le plus beau de Schumacher.
C'est pas au départ, c'est en Australie. En Australie, en 94.
Bon, c'est des scénarios, en fait.
Mais tu préfères Bayrou à De Gaulle. Voilà, c'est tout.
Dans un instant, Eric Dimeco.
À Norris qui a gagné le titre champion du monde,
nous
c'est Bayrou.
C'est Bayrou.
Il aurait été Premier ministre.
Il aurait été Premier ministre, il aurait fait des efforts, mais on ne se souviendra pas. c'est tout.
Et la Formule 1, bien sûr, revient au mois de mars.
Bien sûr.
RMC avec une nouvelle réglementation avec Isaac Hadjar chez Red Bull. On va se régaler. Dans un instant, Journal Moyen.
Avec des acquisitions immobilières pour Antoine Dupont, analysées par nos spécialistes de l'immobilier dans Moscato Show, Vincent Moscato, Denis Charvet.
RMC jusqu'à 18h.
Le meilleur du Super Moscato Show. RMC jusqu'à 18h. Le meilleur du Super Moscato Show.
Adrien Aiguin, Pierre Dorian.
Le meilleur du Super Moscato Show, il est 15h45. C'est l'heure du Journal Moyen, première édition sur RMC.
Première édition du Journal Moyen avec l'actu, la culture, les médias, l'immobilier. Là, on a deux spécialistes. Oui. C'est votre région et c'est un joueur de rugby qui investit. Donc, je veux une analyse parfaite. Antoine Dupont.
Une analyse d'expert.
Netflix se déploie, Vincent. Peut-être qu'un jour, ils vont te racheter. Peut-être qu'ils vont dire, on rachète 20-20. Et puis, la compagnie créole est en deuil. Vincent, on est triste. Écoutez RMC. C'est le 2455e Journal Moyen de l'histoire du Super Moscato Show.
En direct de la rédaction d'RMC. Toutes les infos que vous n'avez pas entendues sont dans le Journal Moyen. Première édition.
La spécialité du Moscato Show, l'immobilier et le rugby dans le sud-ouest.
Je suis à bloc, moi, de défiscalisation, je peux plus balancer le tunnel.
Un match, j'essaie de faire les bons choix de jeu. Et vous, pour vos outils ?
Et oui, alors... Antoine Dupont, la star du rugby, est tombé amoureux d'une région que vous connaissez bien, le bassin d'Arcachon, la dune du Pila.
C'est pas gavé.
Et comme c'est comme ça, Antoine est une méga star du sport français, c'est une méga star française. Quand on est une méga star et qu'on achète une maison, eh bien, la presse qui en parle, c'est comme ça.
Le journal
Sud-Ouest.
A écrit un papier
précis. Donc il aime tellement la région, Antoine Dupont, parce qu'il n'est pas originaire du tout de là-bas.
Hein. Ouais, du Gers, c'est pas très loin quand même.
Bon, côté, c'est pas loin. Non plus les voisins, quoi. Hein.
200 bornes,
voilà.
150. 200 bornes, il n'y a que de l'autoroute, tu mets une heure.
Il a acheté une deuxième maison à la Teste de Buch, une seconde villa. Sud-Ouest évoque donc l'acquisition d'une seconde villa sur la localité que vous connaissez bien. Pila sur mer, je cite le journal, avec vue sur la pointe du Cap Ferré, le banc d'Arguin, c'est comme ça qu'on dit, Denis.
Oui, le banc d'Arguin.
Le Cap Ferré.
L'océan et toute la dune du Pila. C'est en première ligne. Alors pour les non-initiés, première ligne, c'est-à-dire que c'est au bord de l'eau.
Les pieds dans l'eau.
T'as personne devant toi.
C'est pas gavé, quoi.
C'est pas gavé. Ouais.
1200 mètres carrés de terrain. Cette maison serait estimée, selon des confrères d'Actu Aquitaine, Actu Nouvelle Aquitaine, et des spécialistes du secteur, à plusieurs millions d'euros, puisque ce coin est qualifié d'Eldorado de l'immobilier de luxe. Il avait déjà construit une villa en 2024, Antoine, un terrain de plus de 1000 mètres carrés, 310 mètres carrés habitables. Est-ce que c'est un bon choix? Est-ce qu'il a raison d'investir? Est-ce qu'il a les moyens surtout de
déjà il faut avoir les moyens.
Pourquoi t'en achètes une autre?
Mais il a mis en location, ça.
Mais non, mais c'est un investissement.
Parce que la première, c'est Denis qui habite l'été.
J'ai arrêté de dire des.
Ses copains comme ça, Jean-Luc Reichmann, Denis.
Quand ils jouent ça, moi j'aurais dû faire du rugby.
Ses revenus sont estimés à 3 millions par an, tout confondu, ouais. Antoine Dupont.
Ça coûte cher une maison au Pila.
Non, il fait bien, ouais.
C'est bien, bon investissement, messieurs.
Non, mais il perd pas d'argent, il peut même en gagner. Ça perdra jamais d'argent.
Mais ce n'est pas combien tu l'achètes et le marché actuel et tout
il
ça.
Il va y aller, lui, quand
même. Ça, il faut toujours te dire un truc, les arbres ne montent jamais au ciel.
Ouais.
Dis-toi le bien.
Donc, c'est ça,
les arbres ne montent jamais au ciel.
Les arbres ne montent jamais au ciel.
Parce que tous les mecs.
Que lui, il n'a pas compris.
Mais comme en bourse, à un moment donné, il faut vendre. Si les arbres ne montent pas au ciel. Et bien là, c'est pareil. Si tu achètes très fort en haut, tu n'es pas à l'abri que ça baisse. Et si tu achètes un fort en bas, ben, tu peux que ça monte.
Voilà.
Tu peux
prendre c'est le Vince Perrot.
Vince.
Bravo, Antoine. Bravo.
Bravo, Antoine. On est content pour toi, Antoine. Bravo, mon poulet.
Il a les jambes.
Voilà, ça l'oseille pour le point.
Dans le papier, c'est incroyable. Il est précisé que Denis Charvet et Thomas Lombard sont les responsables de son amour pour cette région et donc de ses achats de maison, puisque lors d'un rassemblement pour les barbariens, il a découvert cette région parce que les barbariens étaient basés.
C'est vrai, chez Abouyam Téchouer, à Itchaï,
vous avez. Ces impôts, ça avait ça.
Vous êtes cité, Denis et Thomas, dans le papier de Sud-Ouest. Voilà.
Bah, bravo.
Mais putain, il y a une enquête qui va tomber bientôt.
Non, mais tant mieux pour lui.
En plus, c'est génial.
Je connais la maison, c'est super. L'endroit est magnifique.
On ira faire un Moscato Show là-bas spécial chez Antoine.
Mais non, mais c'est tant mieux pour lui.
Écoute, tant mieux pour lui. On est content pour toi. On est surtout fiers que tu gagnes pour l'artiste.
Ça veut dire que voilà. Vidéo de cet été avec Denis et Vincent, en plus de Mathieu Jalibert, il y aura Antoine Dupont.
Le problème, c'est que nous, plus on vit, moins on nous prend sur les photos.
Cinéma, série, production et argent, décidément, c'est un journal moyen pour vous.
Ah ouais, c'est de l'oseille.
Un deal de fou. Alors. Oui, pendant que nous on faisait les malins à la montagne, on mangeait des raclettes et des tartiflettes.
Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ?
Certains grands patrons négociaient des rachats de contrats. Vendredi, Vincent, nous étions à l'Alpe d'Huez. Pendant ce temps, il y a des patrons qui étaient en train de négocier.
Pendant qu'on était à l'Alpe d'Huez, oui, ils ne savaient rien.
Ils t'ont rien dit. Netflix, vous connaissez Netflix ?
Oui.
Eh bien, vendredi, Netflix a noué un accord pour racheter Warner Bros. Discovery. Warner Bros., donc ce qui inclut les studios de cinéma, de télévision, HBO Max. Montant total du deal. 82,7 milliards de dollars.
Oh, j'en ai marre.
82,7 milliards de dollars. C'est le deal le plus important de ces dernières années dans le monde des cinémas, des séries.
Alors foutre une taxe du Jackman, moi,
en gros, qu'est-ce que ça change ? Ça risque d'augmenter l'abonnement Netflix pour nous. Et puis Harry Potter sera sur Netflix.
Pas forcément d'augmenter l'abonnement.
Ah, le catalogue
va être incroyable. Oui, mais après, ils se diversifient et puis ils ont besoin de contenu.
Voilà l'analyse. Voilà.
C'est le producteur. Là,
quand même. Bah oui, quand même.
Quand est-ce qu'on retrouvera Versailles Rhétorique sur Netflix?
Non, bientôt. Mais c'est non, vrai qu'il faut se faire un Versailles Rhétorique de deux.
Vous rigolez.
Écoutez, moderne.
Moi, j'ai même pas sur une plateforme.
Je vais vous dire,
Choucroute Magazine, ça n'y est même pas. Je pense.
J'ai 30% du film. D'accord. Oui. C'est ce que j'ai donné. Je suis pas en 30%.
Ça va tomber. Tous les ans.
Ce problème, c'est que personne n'en veut.
Non, parce que celui-là, même si tu le mets un peu, il risque de se louer, tu peux te faire un peu.
Moi, je l'ai pas vu.
Il peut plaire en plus.
Moi je l'ai pas vu. Comment je fais aujourd'hui? Je lui dis, tiens, ce soir, je vais regarder Versailles Rhétorique.
Alors, demande à Guy Bolt, le président de l'IKF, il va t'envoyer un lien.
Moi, je sais, mais je peux pas te le dire en direct. Je vais te le dire en fait.
Moi, je vais te le dire. Tu sais, si tu peux pas le louer, tu dis, mais tant pis, c'est la vie, elle est faite comme ça.
Par contre, je te dis, Steve, ça se regarde avec des potes avec un petit coup dans le nez. Parce que, donc, il y a quelques années, l'IKF avait organisé une projection. Je te jure, j'ai pleuré de rire.
Surtout si tu connais le mec.
À la fin.
Surtout si tu connais le mec.
Parce qu'en fait, c'est tellement nul. Que quand tu sais que c'est du premier degré et que c'est raté.
Puis nous, la fin, c'est pas la fin.
Les dialogues sont extraordinaires.
Il y a quelques trucs assez émouvants. C'est vrai, c'est
la mort de Moscato.
Non, mais déjà, rien que
la mort de Moscato, tu pleures.
Rien que c'est un rire censé être au premier degré, genre un énorme événement. Le personnage, il y a Vincent Moscato sur le rugby. Dans ce jour de rugby, son personnage s'appelle Moscato. C'est pas crédible.
Ça te fait rire, Bocasque?
Non, alors là, c'est pas crédible.
C'était un personnage historique qui a bien existé.
Moscato, non, mais mon personnage s'appelait Cassivellum. J'ai bien étudié la chose. Je me suis préparé. Non, mais quand je rentrais dans la
rue, c'est le bouffonnat de Cassivellum.
Mais non!
Avec un casque avec un canard dessus, avec un casque avec un canard.
C'est historique.
Non,
on aurait dit
les casques, on aurait dit le salon des antiquaires, tu sais, mais les escrocs d'antiquaires qui font semblant que ça a mis là alors qu'ils ont fabriqué la veille en Pologne, tu sais.
Bravo, une
horreur.
C'est simple, Denis, il a un casque et au-dessus du casque,
un canard.
Il y a une sorte de poulet, enfin, ça
ressemble à un canard.
C'est horrible.
Un corbeau qu'on va couper avec un vieux pigeon, ça donne un truc affreux.
En tout cas, bravo à Netflix.
Ce casque.
Netflix, il y a une belle acquisition, on sent, pour quelques milliards de dollars.
Si, il a existé.
Tout. Musique.
Absolument fou.
D'ailleurs, je triste nouvelle, Vincent.
Ah oui,
ça. Nous avons appris la disparition de Guy Bévert, le batteur, le chanteur de ce groupe mythique, la Compagnie Créole. En fait,
Pierrot, il adorait.
Tous les Français connaissent les chansons de la Compagnie Créole. C'est des groupes mythiques, Vincent. Il est décédé à l'âge de 76 ans. Au bal masqué, ça fait rire les oiseaux. Ou encore, c'est bon pour le moral.
Masqué, c'est bon pour le moral. C'était plein badin dans les années 80.
Lui, il chantait,
tous les Français jouaient de la batterie.
Oui, il chantait, il était batteur.
Pas un mariage, même encore où il n'y a pas ça.
Mais encore aujourd'hui, tout le temps.
Alors, si le jour où je me marie, tu vas pas l'entendre. Hein. je préfère te prévenir. Si le jour où je me marie, tu n'entendras pas cette chanson.
En plus, si, ouais,
si, non, bien.
Non. T'as des femmes en plus qu'à Guadeloupe, elle a de
dire. Quoi? Elle est quoi? Guadeloupe,
je préfère.
C'est un gars de PM. Mais c'est où, la Guadeloupe?
On le dira à Martinique, c'est pareil. Martinique, on les embrasse. Parce qu'ils nous écoutent, là. Le mec se rattrape,
Guy Bévert.
J'ai fait un aval sur le terme,
plus qu'un aval,
ça dérapage. Écoute-moi, tu sais que là-bas, tu vas en Guadeloupe, ou à la Martinique, le mec, mais oui, parce que t'as l'impression que t'es très loin, mais t'es en France, le mec te serre la poigne, il te dit, putain, vous écoutez tous les jours.
Je te jure,
à Gabé.
C'est
surpris, ça. Mais ça va te parce que t'as l'impression que t'es très loin.
Non, mais là, c'est la Martinique, non, c'est ça, c'est pas...
Mais tu vas quand toi?
Guadeloupe,
tu vas là-bas.
J'ai déjà été autrefois en vacances.
Quand tu vas
dans
la Narbonne, tu fais un détour.
T'as déjà été à la Réunion.
On met vite le clignot à droite.
Un petit point audience rapide.
J'ai jamais été à la Réunion.
Jamais. Un petit point audience Formule 1. C'était le dernier Grand Prix hier. L'audience et le sport. On aime décrypter les audiences dans le journal moyen de première édition. Le Grand Prix hier du sac de Lando Norris, chaîne payante Canal Plus, 1,8 million de moyenne, 2,2 millions le pic.
C'est le record.
Aujourd'hui, un Grand Prix de Formule 1, ça fait peut-être deux ou trois fois plus que l'affiche de Ligue 1. On en est là, Vincent. La Formule 1, c'est un carton. Bon.
Et donc, on revient avec la deuxième édition.
Le Paris Saint-Germain. La deuxième édition dans moins d'une heure.
Et un jeu de mots avec Nadir Hiffi.
16h45, la pire blague de la saison offerte par Vincent Moscato.
Allez, dans un instant, après les infos, c'est le PSG et Donnarumma.
RMC jusqu'à 18h.
Le meilleur du Super Moscato